la dernière partie de la Grande Table. Caroline Brouet.
Bonjour Didier Rebon.
Bonjour.
Bienvenue à la Grande Table.
Merci.
Vous êtes philosophe, sociologue, professeur à l'université d'Amiens. Vous publiez chez Fayard « Principes d'une pensée critique » qui est en fait composée de 6 essais qui ont d'abord été des conférences prononcées en France et à l'étranger entre 2003 et 2015. Autour de la table pour vous interroger à mes côtés, Antoine Mercier, que vous venez d'entendre. Et Sylvain Bourmeau qui nous a rejoint. Bonjour Sylvain Bourmeau.
Bonjour Caroline.
Producteur de la suite dans les idées, professeur associé à l'EHESS. Sylvain Bourmeau qui suit depuis très longtemps vos travaux, Didier Rebon, et qui vous connaît plutôt bien. Vous inscrivez d'emblée ces principes d'une pensée critique dans le sillage ou dans la continuité de vos travaux précédents, en particulier réflexion sur la question gay, 99, une morale du minoritaire, 2001, retour à Reims, naturellement en 2009, et la société comme verdict qui était paru en 2013. Est-ce que vous diriez que ce livre est une suite ou plutôt un retour sur ces questions qui ont été abordées dans les précédents ouvrages? Je vous lance de cette façon-là parce que en le lisant, j'ai bien entendu plutôt la réponse du côté du retour. Vous faites un certain nombre de retours, mais est-ce que vous les avez pensés comme tels, ces textes?
J'allais faire la réponse inverse, qui était plutôt, non pas un retour, mais disons une systématisation des travaux précédents, des ouvrages précédents, et une tentative d'approfondissement des thèmes que j'ai analysés et des principes d'analyse que je mettais en œuvre dans ces différents livres qui étaient de réflexion sur la question gay jusqu'à Retour à Reims et la société comme verdict, les grands principes qui étaient justement des principes d'analyse. Ils sont sociologiques, un mode de pensée profondément sociologique, mais qui donc ne s'enferme pas, pour être profondément sociologique, dans les cadres disciplinaires de la sociologie.
Dans les carcans.
Mais voilà, et qui souvent empêche de penser. Et donc je mobilise, par exemple, comme vous l'avez vu, des travaux d'historiens, des travaux, et beaucoup, beaucoup de textes littéraires. Mes références sont Assia Djebbar, sont Herta Müller, sont Toni Morrison, ou pour des auteurs...
Violette Leduc, Paul Celan,
bien sûr.
Annie Arnaud.
Enfin,
ils sont très nombreux.
John Edgar Wideman, dans lesquels je trouve beaucoup, beaucoup, non seulement d'exemples qui m'aident à réfléchir, mais je trouve également beaucoup, beaucoup de réflexions sur, par exemple, le rôle de la honte, de la constitution, de la subjectivité. Par exemple, vous avez cité Violette Leduc, une chose qui m'a beaucoup frappé en relisant son autobiographie qui s'appelle La Bâtarde, le premier volume. On y voit comment un verdict social s'empare d'elle avant même... Un jour, on lui dit « sale bâtarde » quand elle est une petite fille. Et donc, elle découvre ce qu'elle est. Mais déjà, ce verdict-là s'était emparé d'elle puisque sa mère lui faisait payer à elle, petite fille, le poids, le fardeau de la faute, entre guillemets, qu'elle avait commise, c'est-à-dire en couchant avec un homme sans être mariée avec lui, ce qui, à l'époque, était... Enfin, pour les femmes, en tout cas, qui avaient l'enfant et qui devait le garder parce que l'avortement était réprimé, et pas pour l'homme évidemment qui pouvait partir et ne pas assumer cette parenté, cette filiation. Il y avait pour la femme, pour la mère et pour la fille une sorte de malédiction qui était lancée, et donc la petite Violette Leduc était condamnée par un verdict avant même sa naissance, puisque bâtarde, c'est pas elle qui est désignée, c'est une catégorie sociale qui lui préexiste et qu'on ne peut expliquer que par, en analysant les structures de la famille, les structures sociales, puisque l'homme avec qui elle avait couché, c'était le fils, elle était femme de ménage, c'est le fils de ses patrons, et elle était femme de ménage, donc il y a une structure de classe, il y a évidemment une structure de genre, puisque entre l'homme et la femme, comme je viens de le dire, il y a une... Donc la petite fille est le produit de structures historiques et sociales.
Elle est marquée.
Elle est marquée avant même, quand elle arrive au monde, et c'est pas moi qui le dis, c'est elle dit, je suis née brisée, comment est-ce que, et son compagnon lui dit, je pensais que tu te révolterais, mais tu te tais, tu me déçois. Elle me dit, mais on m'a fermé le bec avant même que je sois née. Et de fait, c'est une phrase terrible et qui m'a fait réfléchir sur comment les gens à qui on a fermé le bec avant qu'ils soient nés, peuvent ensuite prendre la parole. Comment se constitue une parole politique sur la base d'une stigmatisation initiale et même pré-initiale, si je puis dire, puisque cette stigmatisation a précédé sa venue au monde.
Mais c'est pour ça, Didier Ribon, que votre ouvrage, et d'ailleurs en général, vos ouvrages sont des ouvrages inclassables, parce que vous dites que vous faites un travail de sociologie, et en même temps, vous convoquez, on l'entend bien, un certain nombre de textes littéraires qui rend ces principes d'une pensée critique proche d'un ouvrage de théorie littéraire, un essai littéraire également. Et puis, il y a des allers-retours en permanence avec vous-même. C'est une auto-analyse, et vous le dites et vous le revendiquez. Qui est ce jeu qui parle? Ça fait partie de l'analyse, bien sûr.
Mais vous savez, il y a un très beau livre de Vincent Deban sur les anthropologues. Il lit les anthropologues, il prend notamment l'exemple de Lévi-Strauss, mais il travaille sur cette tradition. Ils ont toujours deux livres. Claude Lévi-Strauss a publié « Structures élémentaires de la parenté » et « Triste tropique ». Et je dirais que moi, j'essaie de faire sans me comparer à Lévi-Strauss, bien sûr, mais j'essaie de faire les deux dans un même livre. Le livre savant, l'exploration théorique, et le livre personnel que la dimension personnelle qui est à l'œuvre, je crois, dans bien. On ne peut pas lire La distinction de Pierre Bourdieu sans voir qu'il y a dans ce livre une dimension personnelle. On ne peut pas lire Histoire de la folie de Michel Foucault sans percevoir immédiatement.
Disons que c'est plus ou moins assumé dans les ouvrages sociologiques, et chez vous, c'est revendiqué.
Pierre Bourdieu, quand il a publié La distinction, n'aurait pas dit ça, mais il a dit ça 20 ans plus tard, et il a dit « j'ai toujours censuré la dimension littéraire ». Et son dernier livre posthume, c'est « Esquisse pour une auto-analyse », ce qui veut dire que, je me suis posé la question, est-ce que l'auto-analyse qu'il n'a esquissé qu'à la fin de sa vie, n'était pas contenu dans ses travaux sur le Béarn natal d'ethnologie rurale, ou dans ses travaux sur le système scolaire, la culture, dans la distinction. Par conséquent, je crois que de fait, il y a aussi, comme vous l'avez souligné, un retour le retour à Reims.
Il y a un retour sur le retour à Reims, par exemple.
Bien sûr, parce que...
celui-ci.
Je ne sais pas si je peux évoquer ça, parce que c'est un mail privé, mais bon, comme elle me le pardonnera, Annie Ernaux m'a envoyé un mail hier ou avant-hier, je ne sais plus, après avoir lu « Principe d'une pensée critique », que je lui avais évidemment envoyé, et elle me dit « Tu as raison, le retour n'est jamais terminé. On ne peut pas terminer, tout simplement parce qu'il est impossible. Il est impossible, c'est-à-dire qu'on peut toujours l'essayer, il y a toujours quelque chose à creuser. » Et j'ai ajouté, par exemple, je parle de Annie Ernaux, je parle de Toni Morrison, je parle de Assia Djebbar, etc., mais je parle aussi de ma mère. Et je mets dans un même livre les références, de la haute littérature, de la culture la plus légitime, enfin qui s'est d'ailleurs imposée comme légitime, parce que Toni Morrison ou Annie Ernaux ne l'ont pas toujours été, qui par la force, leur énergie, leur audace, elles n'ont jamais cédé, elles se sont imposées comme des références légitimes des grandes références internationales. Je parle aussi de ma mère, des rapports que je peux avoir avec ma mère et qui me font comprendre ce que c'est que la violence de classe. Par exemple, quand j'écris un livre pour parler d'elle et pour rendre une visibilité publique ou une légitimité publique aux classes populaires, elles, mes frères, ont vécu ça comme une agression, une violence que j'exerçais à leur égard, puisque je parlais d'elles et d'eux. Je ne peux même pas dire sans leur demander leur avis, parce que je leur avais dit que je le faisais, ils répondaient à mes questions, mais le résultat final leur semblait une interprétation de leur vie dans laquelle ils ne se reconnaissaient pas.
Mais du coup, Didier Ribon, on pourrait se demander quelle est la valeur généralisable d'une théorie que vous essayez d'esquisser, alors même qu'il s'agit d'une auto-analyse et que vous allez puiser de quoi la nourrir dans la littérature, comme si vous cherchiez à vous comprendre vous, mais est-ce que ça permet de comprendre un certain nombre de choses extérieures.
Je parlais de Toni Morrison. On ne peut pas lire l'œuvre de Toni Morrison, pour laquelle j'ai une immense admiration. On ne peut pas lire son œuvre sans comprendre qu'elle parle d'elle, de ce qu'elle est. Elle fait une histoire de la communauté noire, des Noirs américains. Elle le dit, j'écris pour les Noirs et je parle des Noirs. Si on ne comprend pas que la mémoire, son livre s'ancre dans une mémoire des Noirs aux États-Unis, son grand livre « Beloved », c'est très précis, se passe en 1850, je crois, et c'est toute la violence raciste, esclavagiste, dont elle est le produit et l'héritière, et qu'elle essaie, pour se comprendre elle-même, comprendre le monde qui est le sien, elle doit faire cette histoire. Mais c'est pareil pour d'autres écrivains, comme John Edgar Wideman, par exemple, qui dans son livre, qui n'est pas traduit malheureusement, « Father Along », se pose la question. Il emmène son père dans le sud des États-Unis, où son père est né. Il emmène son père dans le sud des États-Unis. Et lui, c'est un retour au pays. Retour au pays, avec un grand P. Et il dit, mais ils vont chercher les archives, donc... Quand ils sont arrivés, quand la famille où les esclaves étaient vendus avec comme des têtes de bétail, enfin c'est des choses, la violence des descriptions est souvent insoutenable. Et Weidman dit, mais je ne peux pas m'arrêter là. Si je fais l'histoire de ma famille, je ne peux pas m'arrêter en Caroline du Sud. Je dois remonter jusqu'à l'Afrique. Puis d'un seul coup, il dit, mais dès qu'on parle de la race, il y a un nuage toxique qui est au-dessus de nos têtes. Il faut surtout pas parler de ça. Et donc la question que je me posais, c'est comment affirmer la race et essayer de retrouver son histoire personnelle 3 siècles plus tôt en Afrique, et en disant que parler de la race, donc cette contradiction insurmontable que Weidman affronte très bien sans la dépasser. Et si je retrouve dans des écrivains aussi différents que Assia Djebar, Violette Le Duc, John Edgar Weidman, etc., des thèmes identiques de la fabrication de l'individu, du sujet. C'est une théorie philosophique ou sociologique, anthropologique, historique du sujet.
Parce que ce qui est vrai pour les écrivains est vrai pour tout un chacun.
Est vrai pour tout un chacun. Parce que
l'approche critique doit se développer comme une exploration systématique de l'inconscient social.
De l'inconscient social. Alors, ce n'est pas nécessairement le même. Je parle d'Assia Djebar, par exemple, qui, dans son autobiographie, dit « Je suis né en 1842 quand les troupes coloniales ont incendié le village de mes ancêtres. » Et je me suis posé la question... Quand est-ce que je suis né, moi, pour l'autobiographie ou l'auto-analyse ? Ce n'est pas la date de naissance biologique, j'ai une histoire. Mais si je pose cette question, si je parlais à Assia Djebar, parce que c'est une conférence que j'avais faite avant sa mort, il y a un an et demi, si je parlais avec Assia Djebar, nous aurions une histoire commune, qui est la guerre d'Algérie, et une histoire commune, qui est l'histoire du colonialisme, la France colonisant l'Algérie, mais notre mémoire serait, notre histoire serait, quel langage nous pourrions parler ? Elle parlait français, moi aussi, donc quel langage nous pourrions parler en commun ? Et qu'est-ce que cette histoire commune a de commun ? Et qu'est-ce que cette histoire commune a de divergent, de différent ? Et j'aurais beaucoup aimé avoir un échange public avec elle, malheureusement, comme j'ai pu avoir avec d'autres écrivains, malheureusement...
Elle est disparue trop tôt.
Elle a disparu, voilà.
France Culture, La Grande Table, Caroline Brouet.
Notre invité pour cette dernière partie est Didier Ribon, philosophe, sociologue, professeur à l'Université d'Amiens, qui publie un recueil composé de 6 essais, Principes d'une pensée critique. 6 essais qui n'en composent qu'un, puisque vous avez retravaillé ces conférences pour en faire un vrai livre. Autour de la table, Sylvain Bourmeau pour vous interroger avec nous, et Antoine Mercier. Sylvain Bourmeau vous pose une question.
Je voulais revenir sur cette idée de date de naissance. C'est d'ailleurs le titre de la première conférence de ce recueil. Vous disiez à l'instant, Didier Ribon, que Assia Djebar a écrit qu'elle était née en 1842, qui est la date de conquête de son village en Algérie, bien avant qu'elle naisse, au fond. Et c'est vrai que cette question des dates de naissance, que ce soit celle qui précède votre véritable date de naissance, celle des papiers, ou qu'elle soit postérieure, parce que ça arrive aussi. On a entendu, par exemple, dans ces très émouvants discours de Jean-Pierre Léo à Cannes samedi soir, qu'il était né à Cannes en 1959. Donc, ça peut être après aussi. C'est évidemment l'histoire dont on est chargé au moment même de la naissance, mais c'est l'histoire qu'on s'invente dont on est le contemporain par la suite également. C'est aussi la thématique de la nouvelle d'ouverture de 13 façons de voir de l'écrivain irlando-américain Colm McCann, qui vient de paraître, dont un vieil homme à l'article de la mort se fait la liste au fond de ses dates de naissance. Moi je voulais revenir là-dessus et sur cette notion que vous mentionniez d'inconscient social, parce qu'au fond c'est une manière pour vous de refuser un autre inconscient qui est le concept psychanalytique, et plus généralement de refuser la psychanalyse, parce que il faut quand même le dire et le dire clairement, votre livre est très engagé contre la psychanalyse, y compris contre la psychanalyse, je dirais, qui essaye de se réformer. Alors certains auteurs trouvent grâce à vos yeux, vous citez Adam Phillips par exemple,
ils sont rares,
mais ils sont extraordinairement rares. C'est-à-dire que
je cite un auteur britannique, parce que je me suis dit, si je cite des auteurs français, J'en connais d'autres qui vont dire « tu exagères de ne pas m'avoir cité » ou « vous exagérez de ne pas m'avoir cité ». Donc je n'ai cité qu'un, Adam Phillips, dont je lis les livres avec beaucoup de profit.
Tout ça pour vous demander, pourquoi considérez-vous la psychanalyste comme intellectuellement, théoriquement, un ennemi à abattre au fond, Didier Ribon ?
Mais je vais vous faire un retour autobiographique. La psychanalyse, quand j'étais préadolescent ou adolescent, était pour moi une discipline qui considérait que ce que j'étais en train de devenir, était pathologique et qu'il fallait le guérir. C'est-à-dire, j'étais un jeune gay et la psychanalyse était un discours, c'était le discours de l'ennemi de ma vie. J'étais terrorisé par le verdict psychanalytique. Les verdicts sont pas seulement sociaux, ils sont aussi discursifs. Et là, on a vu. Je me suis ressouvenu, quand vous lisez des autobiographies, beaucoup de gens, gays, lesbiennes, transgenres, vous disent la psychiatrie, la psychanalyse sont des disciplines qui voulaient s'emparer de moi, me réformer, me rééduquer, etc. Et on a vu au moment des débats sur le Pax, puis sur le mariage pour tous, comment l'immense majorité des psychanalystes sont montés au créneau pour dire ça n'est pas possible, ça n'est pas pensable, ça mettrait en cause les principes mêmes qui fondent la civilisation, les règles universelles de la parenté, etc. On voit deux ans après que les règles universelles de la parenté n'étaient pas si universelles que ça, puisque plus personne n'oserait dire ça. Enfin, si, des gens encore pourraient dire ça. Et donc, je me suis interrogé, qu'est-ce que c'est que ce discours psychanalytique et quelle est sa légitimité scientifique, d'où vient son autorité? Je sais que dans les polémiques que j'ai pu avoir contre le discours psychanalytique, qui était une sorte d'autodéfense contre eux, contre elles, j'ai rencontré beaucoup de gens qui disaient « mais moi je suis d'accord avec toi », des psychanalystes ou des amis qui s'intéressent beaucoup à la psychanalyse, qui me disaient « je suis d'accord avec toi ». Simplement, la psychanalyse, c'est pas seulement ça. D'autres gens essaient de... Alors, je me suis dit « mais au fond, mon objection, c'est pas seulement contre la psychanalyse conservatrice, réactionnaire, qui se mobilise contre les transformations sociales, culturelles, juridiques, politiques, etc. C'est aussi une manière de penser l'inconscient qui ne peut pas être une pensée critique, ça ne peut pas être une théorie critique, puisque c'est une théorie forcément individualisante. La psychanalyse vous ramène à une grille de lecture qui est à la fois universelle, l'Œdipe, le phallus dans la version lacanienne, la loi du père, etc., le nom du père, et d'autre part, c'est cette grille universelle qui s'empare d'un individu pour l'expliquer. Or, moi, je crois qu'il y a des histoires singulières qu'on voit dans la littérature qui nous renvoient à des structures historiques, mais les structures historiques ne sont pas nécessairement les mêmes. Et moi, puisqu'on parlait des dates de naissance, je me pose la question, comme Assia Djebbar, quelle est ma date de naissance? Et je m'aperçois que j'en ai plusieurs. Je suis un fils d'ouvrier du nord de la France. Et donc, mon histoire personnelle, c'est cet inconscient social du monde ouvrier, et notamment tout le discours politique, parce que quand j'étais enfant, ma famille suivait le Parti communiste. Mais je suis aussi, j'ai été un jeune gay, je suis maintenant un gay, moins jeune, mais toujours gay, et donc mon histoire, c'est le procès d'Oscar Wilde, c'est André Gide publié en Corydon, c'est...
Mais donc vous reprochez à la psychanalyse de faire fi ou d'oublier cet inconscient social pour se focaliser sur l'individu, alors que vous partez de vous pour l'élargir, c'est ça ?
Il y a une transcendance psychanalytique, si vous voulez. La notion d'ordre symbolique qu'on trouve chez Lacan, il prend ça chez les anthropologues, il en fait quelque chose d'indépassable. L'ordre symbolique, c'est ce qui précède la culture et qui la fonde. C'est-à-dire que, et notamment la différence des sexes comme institution du psychisme individuel. Pour entrer dans la culture, il faut se définir par rapport à l'autre, et comme dit Lacan, l'autre, c'est toujours l'autre sexe. Et à partir de ce moment-là, vous dites... Cet ordre symbolique qui fonde l'entrée dans la culture du sujet humain m'exclut de ça. Je ne fais pas partie. Donc, on me dénie le statut de sujet humain. Donc, j'interroge cet ordre symbolique, les quasi-transcendentaux de la psychanalyse, qui sont, et d'ailleurs, Lacan est très proche de la théologie, qui sont des quasi-transcendentaux, comme très proche des transcendentaux religieux. C'est ce qu'on ne peut pas changer. Or, moi, ma pensée critique, la pensée critique, c'est une pensée de l'immanence qui donc s'oppose à la transcendance, c'est-à-dire, l'immanence, c'est. Il y a des déterminismes qui nous façonnent, nous fabriquent.
Ce que nous sommes a toujours été délimité par un événement.
Par un événement, voilà, la naissance, enfin, le bâtard, tu es un sale PD, etc. L'événement de l'insulte, par exemple. Mais ce sont des déterminismes historiques puissants, profonds, qu'on peut difficilement changer, mais qu'on peut changer. Ils n'ont pas de valeur universelle, immuable, inchangeable. Or, l'ordre symbolique de la psychanalyse, qui est toujours une sorte de psychologie des profondeurs, nous renvoie aux arcanes les plus archaïques, les plus anciennes, immémoriales du fonctionnement de la culture, et c'est ce qu'on ne pourrait pas changer. Donc j'oppose une théorie. Pour moi, la pensée critique s'articule, c'est deux principes articulés. Les deux principes, c'est le principe de l'immanence, du déterminisme. Nous sommes des déterminismes s'exercent sur nous, et de l'immanence, ces déterminismes peuvent être combattus par l'action politique, par la prise de parole, par l'écriture, comme chez les écrivains dont je parlais.
Antoine, merci.
Effectivement, qu'il faut souligner pour bien comprendre la radicalité finalement de votre pensée, qu'il ne s'agit pas uniquement de dénoncer la psychanalyse ou l'ordre symbolique, la transcendance, le principe d'une transcendance. Je vous cite: le refus des transcendances, des transcendentaux ou quasi-transcendentaux, de l'autre, qu'ils prennent le nom par exemple de l'ordre symbolique qu'invoque la psychanalyse, donc on vient d'en parler, ou celui de l'autorité publique ou du bien supérieur qu'invoquent les pensées autoritaires et réactionnaires pour désigner les fondements qu'elles voudraient intangibles de la vie sociale, de l'intelligibilité culturelle. Voilà donc l'ennemi, si je puis dire, la transcendance. Mais est-ce qu'il n'y a pas dans cette position, qui donc évidemment met l'accent ou qui donne l'avantage, on va dire, ou en tout cas l'avantage exclusif à la singularité, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'égal également transcendant malgré tout dans cette pensée?
Didier Ribon.
Non, parce que la singularité, d'abord, ce sont des singularités qui sont collectives. C'est tout le problème que pose Simone de Beauvoir. Je commente ce texte dans la préface à son grand livre de 49, Le deuxième sexe. Elle dit: les femmes ne disent pas nous. Pourquoi est-ce que les femmes qui sont opprimées, dominées, etc., ne disent pas nous? Quelles sont les conditions de surgissement, d'apparition d'un nous, c'est-à-dire d'un sujet collectif qui s'affirme comme nous et qui prend la parole en tant que nous? Donc la singularité, c'est une singularité collective, c'est les femmes. Et je pose la même question en reprenant le titre, le texte de La Bâtarde. Puis à un moment, Violette Audic dit: pourquoi est-ce que les bâtards ne s'entraident-ils pas? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des boulangeries pour bâtards? Ça serait un mouvement, des agences matrimoniales pour bâtards. Elle imagine un mouvement politique ou associatif des bâtards qui s'allierait entre eux pour produire un discours collectif avec des mouvements se dotant de ces institutions. C'est une institution qui serait, dans son exemple, les boulangeries pour bâtards, les agences matrimoniales. C'est ce que tout mouvement qui apparaît produit. Et donc, il n'y a pas une transcendance parce que précisément, un des textes qui s'appelle La voix absente, que j'ai prononcé dans un colloque sur Pierre Bourdieu et que j'ai retravaillé ensuite, La voix absente, c'est il n'y a pas de transcendance parce que précisément, quand il y a un mouvement social, si large qu'il puisse être et aussi englobant qu'on veuille la fameuse convergence des luttes, le concept avec lequel, enfin, que je soutiens, s'il y a convergence des luttes, je suis là, je suis avec, mais dont le concept me semble tout à fait discutable, même critiquable.
Difficile à obtenir,
bien sûr, quasiment impossible à obtenir.
Ah oui, parce qu'un mouvement des bâtards avec un mouvement des gays, on se demande...
Avec un mouvement des gays, mais surtout avec un mouvement... avec un mouvement ouvrier, avec des grévistes dans une...
C'est pour ça qu'il faut trouver revendications.
Non, parce que l'au-delà de la revendication, c'est accueillir les voix dissidentes. Et les voix dissidentes... Moi, j'ai été très frappé... je disais ça à mes étudiants tout récemment, parce qu'ils me disaient: on ne peut pas imaginer des mouvements comme ça qui apparaîtraient. J'ai mis le mouvement, par exemple, des transgenres. Qui aurait imaginé, il y a 20 ans, que le mouvement transgenre s'affirmerait comme un mouvement qui pose au mouvement féministe, au mouvement gay et lesbien, des questions nouvelles. Il y a des associations, il y a des réunions, des colloques, des transgender studies, etc. Donc, une nouvelle parole produit beaucoup de discours, de paroles.
Mais est-ce que ce ne sont pas des discours qui se ressemblent, malgré tout, du fait qu'il n'y ait pas précisément cette transcendance qui singulariserait les personnes et que chacun est dans un discours de revendication, l'immanence homogénéisée par cette revendication?
Quelle serait la transcendance? La transcendance, ça serait j'ai beaucoup de difficultés avec le concept de commun, créer du commun, concept qui circule actuellement de l'extrême droite à l'extrême gauche, d'ailleurs, ce qui est pour moi un problème, créer du commun. Je sais par expérience, je le racontais tout à l'heure, que quand il y a du commun, Il y a des gens qui sont exclus. Il y a le commun, ça a toujours été sans les gens comme moi. Et d'ailleurs, ceux qui disent il y a du commun, il faut créer du commun, sont les premiers à dire il ne faut pas des revendications particularistes.
Mais vous excluez les non-bâtards dans les mouvements des bâtards, c'est pareil, il y a de l'exclusion partout.
Moi, je n'exclus personne. J'accueille.
Non, mais c'est très intéressant, Didier Ribon, parce qu'on est dans une situation effectivement où la convergence des luttes, où la mise en avant de l'intersectionnalité, pour reprendre un autre concept sur lequel vous revenez, paraît d'autant plus difficile qu'on assiste, par exemple, à la publication récemment d'une pétition pour le droit à la non-mixité dans certaines instances. Mmh. Ce qui interroge et divise beaucoup d'une certaine façon à gauche. Moi, je voudrais sur ces questions...
Excusez-moi, j'étais à Nuit Debout, j'étais exclu d'un groupe féministe parce que c'était la non-mixité.
Voilà, donc on est dans cette situation-là. C'est des vieux débats du féminisme, par ailleurs, mais ils surgissent autrement. Alors, moi, j'aimerais venir sur un petit regret que j'ai par rapport à ces conférences que je trouve passionnantes parce qu'elles approfondissent, etc. Mais... Merci. Mon petit regret, c'est que, au fond, mais c'est peut-être pas le propos de ce livre-là, peut-être faut attendre le prochain, vous prenez pas en compte, finalement, ce qui s'est passé depuis 15 ans. C'est-à-dire précisément ce qu'il y a dit Manon, et pas transcendant dans les positions des uns et des autres. C'est-à-dire que il s'est passé des choses sur un certain nombre de dossiers qui vous intéressent, en particulier le mariage. Vous écrivez, par exemple, dans un texte qui date de 2004, que la situation française est spécifique parce que, non seulement il y a la droite réactionnaire catholique qui est contre le Pax et qui est contre le mariage homosexuel et l'homoparentalité, mais en plus, en France, il y a une partie de la gauche et en plus de la gauche intellectuelle qui est très contre, etc. Oui, alors ça, c'était vrai en 2004. Ça l'est nettement moins aujourd'hui. Et j'ai une question à vous poser. C'est pourquoi vous prenez pas en compte les évolutions quand on ne peut que s'en réjouir de certains de ceux qui ont pris position là-dessus. C'est-à-dire il y avait autrefois des gens qui, il y a 15 ans, étaient très contre le mariage homosexuel, qui aujourd'hui sont non seulement pour le mariage, mais pour la filiation pour tous. Allez, je vais citer le nom d'Irène Théry, par exemple. Mais de façon étrange, alors que vous connaissez ces mécanismes, vous continuez de lui assigner une place, vous l'assignez à un instant fatal, en quelque sorte, pour reprendre une expression qui est la vôtre, sans mesurer son évolution. Alors qu'à l'inverse, on assiste à beaucoup de dérives en sens inverse, qui sont très dangereuses. Prenez l'exemple de Jacques Julliard, qu'on trouve à la une du magazine d'Alain de Benoît, magazine d'extrême droite. Bon, voilà une évolution. Alors, quand les gens évoluent plus tôt dans votre sens, pourquoi vous ne vous en réjouissez pas?
Mais que les gens changent dans ce que je considère comme le bon sens, le sens que je peux m'en réjouir. Mais il m'est toujours, puisqu'on parlait d'immanence et de transcendance, il m'est toujours difficile de penser qu'on peut changer quand on a invoqué contre les transformations sociales, contre les mobilisations, les militants, les intellectuels, qui ont été insultés, comme Daniel Boriot, moi et d'autres, et qui ont insulté. Nous étions traités par la personne que vous citiez, d'ayatollah de l'égalité, de cinglé, quand nous demandions de cinglé, oui, dans une émission de France Culture, le samedi matin. Donc, il est difficile ensuite de dire « Ah, elle a changé ». Mais
Il suffit de lire pour ça.
Il suffit de lire, d'accord. J'ai lu assez de textes de ces gens-là pour ne plus avoir envie de les lire aujourd'hui. Mais je vais vous dire une chose. On ne peut pas dire « je change, j'ai changé » quand ce qu'on invoquait était les fondements immuables de la civilisation. Si c'était immuable, si on disait « c'est immuable », on ne peut pas transformer ça. Sinon la civilisation s'écroule. Qu'on a répété ça pendant 20 ans, il me semble tout de même un peu bizarre, enfin je comprends très bien le processus, il me semble tout de même bizarre et même un peu suspect de venir dire... Un an avant quand les choses sont gagnées et gagnées par les gens qui se sont mobilisés, de dire j'ai changé.
La filiation, c'est pas gagné. Par exemple, la filiation, c'est pas gagné. Mais parce que ces gens s'engagent aujourd'hui.
Parce que ces gens-là s'y sont opposés. C'est pas des gens qui avaient. Quand les gens avaient un avis et changent d'avis, ok. Mais quand des gens étaient tous les jours à France Culture, à France Inter, à la télévision, dans toutes les émissions.
Daniel Boriot et vous étiez aussi souvent sur nos antennes, Didier.
Tous les mois dans la revue Esprit, etc., pour dire que c'était impensable, que c'était impossible, qu'il fallait s'y opposer pendant 20 ans. Et que c'était la fin de la civilisation, que la France marchait vers le passé, la destruction de la culture, etc., de tout ce qui fonde le monde dans lequel nous vivons. C'était pas une opinion sur laquelle on peut changer. C'était un combat politique qui s'articulait juste, qui prétendait se fonder sur un savoir scientifique irrécusable, irréfutable et indépassable.
Mais est-ce que si on va plus loin,
si les gens disaient ce que je dis est irréfutable, parce que c'est C'est ce que nous enseignent les anthropologues, qui nous montrent que les anthropologues disaient le contraire. Mais enfin, ça, c'était pas, ça gênait pas les gens qui disaient ça. On peut pas dire, une fois qu'on a dit ça, c'est le savoir. On peut pas m'opposer la réalité, les faits, etc.
Puisque oui, faut être cohérent avec soi-même.
Et on peut pas dire 20 ans après, quand la loi est sur le point d'être votée et qu'on s'expose à être éjecté du champ intellectuel si on continue à s'y opposer, de venir courir en disant j'ai changé. Et surtout, alors, je pense que c'était aussi un rapport au gouvernement. Lisez le rapport où c'était un comité de juristes les plus réactionnaires qui, à la demande des ministres socialistes de l'époque, avaient rendu un rapport en 98. Une commission présidée par celle que vous voulez réhabiliter. Je me demande bien pourquoi, parce que vous aviez des mots assez durs sur elle.
Il ne s'agit pas de réhabiliter, il s'agit de prendre acte du fait que des gens...
Non plus, hein.
Il s'agit de prendre acte du fait que des gens peuvent changer de position, avoir des raisonnements différents, et d'avoir la curiosité intellectuelle de continuer à lire.
Dans ce cas... Non, alors franchement, il y a quand même des auteurs qui travaillent en France, aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, des auteurs qui travaillent depuis très longtemps sur ces questions et qui disent des choses infiniment plus intéressantes que ces espèces de radotages qui n'ont, à mes yeux, aucune
validité. Mais est-ce que ce n'est pas
validité.
Contradictoire avec votre théorie ou avec vos principes d'une pensée critique, Didier Ribon, quand vous dites que vous inscrivez votre théorie de la pensée critique sur deux grands principes que sont le déterminisme et l'immanence, et que vous dites que l'immanence contient la possibilité de changement, d'émancipation, d'ouverture, et là vous dites qu'en fait les gens ne peuvent pas changer, mais alors du coup...
C'est que les mobilisations associatives, les mobilisations intellectuelles, les mobilisations artistiques, etc., ont obligé ces gens à changer.
Bah donc ça va dans le bon sens.
Sous leurs insultes, et par conséquent, il est difficile aujourd'hui d'accepter que quelqu'un... Quelques-uns viennent dire c'est grâce à nous que c'est nous qui faisons, c'est nous qui avons fait. Non, tout s'est fait contre eux et contre elles. Et puisqu'on parlait des mouvements sociaux, je suis un peu gêné de commenter quelqu'un pour les travaux de quelqu'un pour laquelle vraiment je n'ai pas la moindre estime et même le plus profond mépris. Élevons un peu la discussion. Qu'est-ce que c'est qu'un mouvement social qui réussit? Comment un mouvement social qui paraît un mouvement qui a des revendications folles, cinglées, etc. Comment ce mouvement social en arrive à transformer les perceptions? Parce qu'avant on disait, c'est évident que le bon sens nous interdit d'aller vers ça. On arrive à changer l'évidence et le bon sens. C'est ça un mouvement social qui réussit. Et donc, la preuve que ce mouvement social a réussi, c'est que ceux qui l'ont combattu pendant 20 ans avec acharnement et hargne sont obligés de s'y rallier. Il faudrait ici aussi faire une sociologie des rapports de certains universitaires et intellectuels avec les partis politiques. Comment le changement d'agenda du Parti socialiste oblige ceux qui étaient leur porte-parole dans le monde intellectuel, les oblige à changer leur discours puisque le Parti socialiste a été obligé de changer. Donc c'est tout ça qu'il faut analyser. C'est pas telle personne qui a changé, je m'en fiche. Je voudrais analyser précisément le... Enfin, je pense que mon livre, il y a une phrase sur ça, sur 300 pages, donc je voudrais pas que mon livre soit résumé à la... Je crois qu'il n'y a même pas le... Il y a pas de...
C'est pour ça que je signalais un manque.
Del error yo viví como insulto lo que aprendí no le gana lo que soy un instante no
On entend une chanteuse chilienne, Francesca Valenzuela, Insulto, on parlait d'injure.
Insulto, Didier, oui, c'est une très bon. Belle chanson. Insulto, donc l'insulte. Et quand elle a produit cette chanson, il y a 2 ou 3 ans, elle a dit, je la dédie à tous ceux qui sont infériorisés, insultés, stigmatisés, dominés, agressés, etc. Et comme un message d'espoir pour leur dire qu'ils peuvent se mobiliser et que par leur mobilisation, les choses peuvent changer. Donc,
c'est ça qu'on retiendra des principes d'une pensée critique. C'est quand même possible. Merci beaucoup, mobiliser. Didier Ribon. Votre livre a paru aux éditions Fayard. Merci Sylvain Bourmeau d'être venu au micro de La Grande Table aujourd'hui. Merci à toute l'équipe. À la réalisation, c'était Marie-Laure Ciboulet. Et à la technique aujourd'hui, c'était Jacques Hubert.